que ve shooting de
Gerard. Digo de Radio France Internationale.
Sidé.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Xenia Djorkaeus, la rédaction ukrainienne.
Vitaille.
Vous vous intéressez aux conséquences de la guerre en Ukraine sur l'environnement.
Tout à fait.
Tim Bimba, de la rédaction Fulfudé. Bonsoir.
Philippe Missal Minima.
Vous êtes en ligne de Dakar, où se trouve votre rédaction, et vous allez nous parler de la Sierra Leone, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest où ont été attaquées la principale armurerie du pays ainsi que la prison de la capitale. Et David Coffey, la rédaction en anglais.
A very good evening to you.
Pour le rôle diplomatique joué par la France dans le Caucase, notamment concernant le nettoyage ethnique dans le Haut-Karabakh. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr une fois de plus la guerre entre le Hamas et Israël, une guerre qui reprend après une semaine de trêve et des échanges d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. David, votre rédaction, a recueilli des réactions sous la forme d'un témoignage.
Oui, on a un récit poignant de ce qui signifie la fin du cessez-le-feu sur le terrain a été donné par James Elder, le porte-parole mondial de l'UNICEF qui se trouve lui-même à Gaza. Dans les 30 secondes qui ont suivi la fin du cessez-le-feu, il a rapporté qu'il entendait les drones au-dessus de sa tête et qu'il entendait des explosions à revenir. Ce qui est déchirant, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants que l'UNICEF a pu voir toute la semaine dernière, essayant de réduire leur traumatisme et tout ce qu'ils ont enduré à l'hôpital Al-Nasser, qui est le plus grand hôpital en état de fonctionnement à Gaza. Des centaines et des centaines de femmes et d'enfants se sont réfugiés dans les couloirs, dans les salles d'attente, etc. Et la peur est revenue dans leurs yeux. En gros, un retour à un sentiment de désespoir.
Et il vous a également été décrit l'état dans lequel se trouve la ville de Gaza.
En effet, il a décrit l'immense destruction du nord au sud de la bande de Gaza. Et à travers la dévastation, on voit le traumatisme dans les yeux encore des enfants, à la fois leur propre peur, mais aussi, bien sûr, le regard de leurs parents lorsqu'ils réalisent que leur mère et leur père ne peuvent rien faire pour les protéger. Mais il y a également décrit des victimes, les victimes physiques que même l'UNICEF n'avait jamais rencontrées auparavant. Un nombre incroyable d'amputés. Lorsque votre maison est touchée par une roquette, les blessures subies par les enfants ne sont pas isolées. Il y a d'horribles brûlures, des éclats d'obus qui ravagent le corps d'un petit garçon, d'une petite fille, et des os brisés. Le porte-parole d'UNICEF est perplexe et découragé de constater que le feu vert a été donné pour que toutes les attaques se reproduisent.
Et puis David, il y a des histoires personnelles.
Il a parlé d'une petite fille de 8 ans, Shimel, qui a perdu sa jambe et son bras droit. Elle est à l'hôpital à Gaza. Elle a recommencé à parler ces derniers jours, mais elle ne parle plus depuis ce matin. Mais le problème, c'est que ces histoires sont partout, comme celle d'Omar, 9 ans, dans un camp désespérément surpeuplé que l'UNICEF a pu au moins réapprovisionner la semaine dernière. Une attaque a tué son père, sa mère et son frère jumeau. Il n'arrêtait pas de fermer ses yeux pendant de longues périodes. Lorsqu'on lui demande pourquoi il faisait cela, il a répondu qu'il était terrifié à l'idée d'oublier à quoi ressemblait son père ou sa mère. Il a tellement peur de les perdre dans son esprit de la même manière qu'il les a perdus dans la réalité. Mais ces histoires, malheureusement, se répètent partout dans la bande de Gaza.
Xenia, 7 jours de trêve donc, ont permis des libérations, mais aussi l'acheminement d'aide humanitaire et de médicaments. 3 pays ont été à la manœuvre pour obtenir ce cessez-le-feu. Ce sont les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Le Qatar qui était un négociateur incontournable.
Oui, tout à fait. Comme vous le savez bien, le Qatar a une relation particulière avec le Hamas, avec la Russie et l'Iran. Et c'est au Qatar que se trouve le siège du bureau politique de l'organisation. Mais le Qatar est aussi l'un des principaux alliés non membres de l'OTAN des États-Unis, où d'ailleurs se trouve la plus grande base militaire américaine. Plus il y a d'alliés, de contacts, d'interactions, moins il est probable que quelqu'un tente d'imposer sa volonté au Qatar, principalement l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs, D'ailleurs, ils ont déjà essayé de le faire à plusieurs reprises. Le Qatar tente d'accroître son influence dans le monde par le biais de la médiation, notamment en servant de médiateur entre Israël et le Hamas, et en acceptant de jouer ce rôle, d'ailleurs, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, au moins sur le plan humanitaire. Je vous propose d'écouter l'explication de Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères au Qatar.
Our relation with the U.S. is a very solid relationship and alliance that being established throughout
the decades.
Oui, alors il dit que les communications que le Qatar a eues avec le Hamas tout au long de ces années se sont limitées à la branche politique, aux représentants politiques et aux bureaux à Doha. Et c'est tout. Le Qatar ne traite pas directement avec la branche militaire. Il précise aussi que la relation avec les États-Unis est une alliance très solide qui était établie au fil des décennies. Les Qataris ont travaillé ensemble très étroitement pour assurer la paix et la stabilité dans la région, aussi bien qu'en Afghanistan. Et maintenant, ils travaillent en étroite collaboration avec la Maison Blanche, la CIA et le Département d'État. Le président des États-Unis, selon lui, est en contact permanent avec son Altesse l'émir. Il existe une relation basée sur la confiance et sur l'intérêt mutuel des deux pays. Le bureau en charge des négociations, depuis sa création, est en coordination avec les États-Unis pour établir la communication avec le Hamas. Selon le ministre, vous ne pouvez pas mettre fin au conflit en parlant à votre ami. En cas de conflit, vous avez besoin d'un ami pour parler à votre adversaire ou à vos opposants. Le Qatar représente l'ami parfait des États-Unis pour parler de ses adversaires et ses multiples parties.
L'Égypte également, Timmy. L'Égypte a joué un rôle très important dans cette trêve et dans ces échanges de détenus. Timmy Ba.
Oui, Philippe, depuis le début de cette crise, l'Égypte s'est montrée incontournable dans ce processus donc de négociation. Le président Abdel Fattah al-Sissi a organisé de nombreuses rencontres, dont le sommet pour la paix tenu en octobre dernier, sommet qui a réuni des dirigeants européens et arabes pour tenter de désamorcer la crise. L'Égypte a été donc une actrice majeure d'abord dans l'obtention de cette trêve qui a pris fin aujourd'hui. Et comme vous le savez, elle a été obtenue au prix d'une longue négociation menée par l'Égypte, les États-Unis et le Qatar. Caire joue également un rôle essentiel dans la sécurisation du processus d'échange des otages qui passent par Rafah sur le sol donc égyptien pour rejoindre l'Israël. À titre d'exemple, Philippe, samedi dernier, la libération de 13 otages par le Hamas, qui a été donc compromise par l'organisation palestinienne qui avait accusé l'Israël d'y violer le cessez-le-feu. Il a fallu l'intervention des agents de renseignement égyptiens qui se sont rendu dans la bande de Gaza pour aider à désamorcer la situation. Résultat, les otages avaient été libérés.
Alors ce rôle de médiation que l'Égypte joue aujourd'hui est le fruit d'une longue histoire.
C'est en effet ce que pense le docteur Abdouba, spécialiste du monde arabe. Pour lui, les dirigeants égyptiens ont su depuis 40 ans dialoguer avec l'État hébreu, une position qui était au départ très mal vue par ses voisins arabes. On l'écoute.
Que dit cet expert, Timbi?
Docteur Abdouba explique que suite au conflit entre l'Israël et le monde arabe, l'Égypte a décidé de signer un traité de paix en 1979 avec l'Israël, devenant le premier pays arabe ayant un accord avec cet État. Et depuis, les dirigeants des deux pays ont entretenu des relations plus ou moins bonnes malgré les tensions dans la région. Docteur Abdouba indique qu'il a fallu attendre 15 ans pour assister à la normalisation des relations entre l'État hébreu et la Jordanie et 40 ans pour voir un rapprochement avec les Émirats arabes unis. C'est ainsi, précise-t-il, que les responsables égyptiens sont parvenus à trouver l'équilibre entre leur opinion publique largement solidaire à la cause palestinienne et l'intérêt d'entretenir des relations diplomatiques étroites grâce à l'établissement d'une ambassade à Tel Aviv. L'Égypte et l'Israël ont tous les deux un intérêt commun, à savoir éviter la résurgence de l'islam politique dans la région. Cela est lié à la propre expérience de l'Égypte en matière d'organisation islamiste. On se rappelle, Philippe, que le président Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir en 2013 après avoir évincé les Frères musulmans, mouvement politico-islamiste fondé en Égypte.
Et puis, il y a, en plus de cette position diplomatique, le fait que l'Égypte fait jouer sa position géographique.
Effectivement, Philippe, si l'Égypte tire sa grandeur diplomatique de sa puissance dans la région combinée à sa proximité avec les États-Unis, sa situation géographique compte aussi. Elle partage en effet une frontière avec l'État hébreu, mais aussi avec la bande de Gaza, une position qu'elle exploite pleinement pour se faire une place de médiateur naturel pendant toutes les crises entre l'Israël et la Palestine. Le poste frontière de Rafah est situé sur le long de la frontière des 12 kilomètres qui sépare l'Égypte et la bande de Gaza. Il est sous contrôle, bien sûr, donc égyptien, même si l'Israël surveille de près tout ce qui s'y passe. Rafah joue en ce moment un rôle majeur pour l'évacuation des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Les dirigeants du Hamas, bien qu'issus des frères musulmans, se voient donc obligés de composer avec l'Égypte qui contrôle l'unique frontière que Gaza ne partage pas avec l'Israël, Philippe.
Donc l'Égypte, les États-Unis et le Qatar. On vient d'en parler, mais je reviens vers vous, Xenia, parce que le Qatar joue également un rôle de bons offices, de négociateur avec la Russie pour obtenir le retour des enfants ukrainiens qui ont été enlevés pendant la guerre en Ukraine.
Oui, tout à fait. Répondant à la question du journaliste de savoir s'il y a un espoir de repatrier d'autres enfants ukrainiens dans un avenir proche, ministre Al-Thani a déclaré que des efforts sont en cours et que le Qatar utilise les canaux de communication de relations qu'il entretient avec la Russie pour y parvenir. Et je vous propose de continuer cet d'écouter cet extrait, s'il vous plaît.
And this, we see that this is a contribution of such a small country to international peace and security.
C'est donc le premier ministre du Qatar qui parle.
Oui, tout à fait. Il dit bien que le Qatar a joué un rôle de médiateur dans divers conflits qui ne concernent pas uniquement la région, mais aussi au-delà. Il s'agit là d'un élément fondamental de la politique étrangère du pays. Pour eux, il s'agit d'une contribution dans six petits pays à la paix et la sécurité internationale. Ce qui concerne la libération des enfants ukrainiens, les Qataris ont joué un rôle très important. C'était fait, en fait, à la base de la demande formulé au départ par les Ukrainiens et s'était confirmé d'ailleurs avant-hier par le gouvernement ukrainien. Le ministre espère aussi qu'un autre groupe d'enfants va rentrer dans ces familles avant les vacances, mais il ne donne pas de précision sur le nombre d'enfants. Et pour le rappel, en octobre, on a appris que Qatar avait facilité le retour de Russie de 4 enfants ukrainiens qui étaient enlevés pendant la guerre. Et aujourd'hui, on estime le nombre d'enfants déportés par la Russie à l'auteur de 20 000.
Voilà donc sur le rôle du Qatar qui devient de plus en plus incontournable dans toutes les crises de la planète, toutes les guerres qui ravagent en ce moment différents pays de ce monde. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et puis il y a cette autre guerre, une guerre qui a fait beaucoup moins parler d'elle que celle qui a lieu en Ukraine et que le conflit Hamas-Israël. Il faut dire qu'elle n'a duré que quelques jours à la fin de l'été. L'Azerbaïdjan, qui a pris le contrôle à l'époque de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. S'en est suivi un exode massif d'Arméniens. David Coffey de la rédaction anglophone de Radio France Internationale. Intéressons-nous à l'action diplomatique des pays européens dans cette affaire.
Alors, l'Allemagne a insisté début novembre sur le fait que la médiation européenne était la meilleure option pour que l'Arménie et l'Azerbaïdjan parviennent à un accord de paix durable. Les voisins du Caucase sont engagés depuis des décennies dans un conflit pour le contrôle de la région azerbaïdjanaise de Haut-Karabakh, peuplée d'Arméniens que Bakou a reconquise lors d'une offensive éclair en septembre. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont tenu plusieurs séries de pourparlers de paix sous la médiation de l'Union européenne et les deux dirigeants ont déclaré qu'un traité de paix pourrait être signé dans les mois à venir. Cependant, le mois dernier, Aliyev a refusé de participer à un cycle de négociations de paix avec Pachinian dans la ville espagnole de Grenade en raison de ce qu'il a qualifié de position partiale de la France.
David, pour quelle raison ?
Bon, récemment, une délégation française soutenant l'Arménie est arrivée à la frontière du Haut-Karabakh et en signe de défi face au blocus de la région par les Azerbaïdjanais, par l'Azerbaïdjan. Paris vend des armes défensives à Erevan et bien que des négociations de paix soient censées être engagées entre les voisins hostiles, Aliyev maintient que Paris s'ingère dans les affaires régionales. J'ai demandé récemment à Richard Giragosian, directeur du Centre d'études régionales d'Erevan, si M. Aliyev avait raison de penser que la France avait un parti pris pour l'Arménie.
He does, to be quite fair. The Azerbaijani president, most recently Ilham Aliyev, had boycotted a meeting that was set to bring together the Armenian and
Quel est le commentaire de ce spécialiste de la région?
En fait, il dit que Aliyev s'est senti acculé. L'Azerbaïdjan s'est senti en infériorité numérique à cause du rôle de la France et l'Allemagne. Ce n'était plus le président du Conseil européen, Charles Michel, qui dirigeait la facilitation de l'Union européenne dans les pourparlers. C'est pourquoi Aliyev a exigé que le président turc Erdogan soit également autorisé à participer. Il affirme que la réponse au boycott, aussi destructive soit-elle, a été efficace et compréhensible du point de vue des Azéris. Cependant, ce qui est souvent absent de la rhétorique azerbaïdjanaise et turque contre l'engagement de la France est la réalité que la France était un membre de longue date du groupe de Minsk de l'OSCE, qui était la seule entité diplomatique médiatrice dans le conflit du Haut-Karabakh. Il s'agissait des États-Unis, de la Russie et de la France, et non de l'Union européenne. Donc pour lui, pour être juste, le rôle de la France est donc légitime dans une certaine mesure, et cela remonte à plus de 30 ans depuis 1992.
Alors la France, justement, il y a une importante diaspora arménienne qui vit ici.
Absolument, Philippe, l'une des plus importantes au monde à Paris, et à Paris, comme le socle, bon, comme le capital de la France, a récemment célébré le 20e anniversaire de sa reconnaissance du génocide commis par l'administration Jeune Turque en 1915. Mais à la lumière du récent conflit au Haut-Karabakh, une question s'est posée. Malgré les protestations des Azerbaïdjanais, la France a-t-elle vraiment fait assez pour soutenir l'Arménie et contrer son isolement de la région? Pour M. Giragosian, il m'a dit qu'il pensait que Paris avait en fait dépassé les attentes. Mais en même temps, c'est l'engagement de l'Union européenne qui est à la fois plus significatif et plus efficace que les simples actions françaises. Il a souligné que si l'engagement du président Macron envers l'Arménie est important, un contexte européen plus large est nécessaire pour soutenir la résilience de l'Arménie.
Qu'en est-il maintenant, David, de l'action de la Russie?
Ah, bien. La Russie est traditionnellement alliée à l'Arménie depuis la chute de l'Union soviétique et la montée des hostilités entre Erevan et Bakou à la fin des années 80. J'ai demandé encore à Richard Giragosian comment l'invasion russe de l'Ukraine avait affecté cette alliance traditionnelle.
Russia's failed invasion of Ukraine, as egregious as it was, has changed everything, not just its relationship with Armenia or Azerbaijan.
Et quel est donc son avis sur cette question?
Il répond que l'invasion ratée de l'Ukraine par la Russie a tout changé, et pas seulement les relations avec l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. Cependant, plusieurs années avant l'invasion malheureuse de l'Ukraine, la Russie s'était éloignée de sa position pro-arménienne. Il y a plusieurs années, la Russie est devenue le premier fournisseur d'armes de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. En fin de compte, elle s'est positionnée pour le profit, mais aussi pour l'influence géopolitique. La nouvelle alliance, par contre, entre la Russie et la Turquie, qui est historiquement une aberration, a également contribué à cette évolution ou même la renforcer. Toutefois, la Russie reste submergée et distraite par sa défaite militaire inattendue dans l'espace de combats ukrainiens, ce qui signifie qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son influence traditionnelle dans le Caucase à cause de l'Ukraine. Mais la Russie a la mémoire longue et le tempérament court. Il y aura un jour un châtiment et une vengeance de la part de la Russie, surtout après l'humiliation effective des soldats, la paix russe par l'Azerbaïdjan.
David Coffey, la rédaction en anglais de RFI. Les habitants de Freetown ont été réveillés dimanche dernier par des affrontements entre des hommes armés et les services de sécurité. Ce sont des militaires et certains à la retraite qui se sont attaqués à la principale armurerie du pays, mais également à la prison de la capitale. Le bilan, 21 morts, dont 13 militaires et 4 assaillants. Ibrahima Timimba, de la rédaction de RFI en Full Fudé, vous avez travaillé sur ce sujet. À ce jour, qu'est-ce qu'on sait précisément de ces événements? Vous avez pu reconstituer ce qui s'est passé?
Oui, Philippe, ces violents affrontements ont éclaté tôt dimanche dernier. Donc, on dirait pendant plusieurs heures, les assaillants se sont attaqués à plusieurs sites. Ils ont d'abord tenté de forcer une poudrière avant de s'attaquer à 2 casernes et 2 postes de police où ils ont réussi à emporter du matériel de guerre. Ces hommes armés se sont ensuite dirigés vers 2 prisons de la capitale où ils sont parvenus à faire évader plus de 2000 prisonniers. C'est la panique à Freetown. Certains habitants aux alentours de ces sites attaqués tentent de fuir. D'autres s'étaient dans les maisons. Les affrontements ont été longs et violents. Certaines maisons du quartier Wilberforce ont été touchées par les tirs, causant des blessés. Mais l'armée finira par prendre le dessus sur les assaillants. Et depuis, leur traque continue à travers le pays.
Justement, des personnes ont déjà été arrêtées et d'autres le seront peut-être.
Oui, si au début les autorités sierra-léonaises avaient qualifié ces événements de tentatives de déstabilisation de l'État, elles ont fini par les désigner comme étant une tentative de coup d'État. Un couvre-feu est instauré, les frontières fermées, une chasse à l'homme lancée avec une récompense de 50 millions de léances, soit un peu plus de 2000 euros. Parmi les personnes recherchées figurent d'anciens gardes de l'ex-président Ernest Bai Koroma qui avait publié un communiqué condamnant les violences dans la journée du dimanche. Un de ses anciens gardes rapprochés a d'ailleurs été tué dans ces événements. Pour l'instant, le gouvernement assure que les investigations sont toujours en cours sans se prononcer sur une éventuelle implication de l'ancien chef de l'État. À ce jour, de nombreuses arrestations ont été opérées, dont 13 militaires et un civil. Des acteurs politiques aussi ont été arrêtés. Parmi eux, Mahmoud Bangoura, secrétaire national du principal parti d'opposition. Position EPC.
Et vous le disiez tout à l'heure, des armes ont également été récupérées.
Bien sûr, oui, des lance-roquettes et des fusils automatiques saisis à la périphérie de Freetown, donc la capitale selon le gouvernement. Or, la circulation de ces armes inquiète les Sierra-Léonais, car on se rappelle que le pays a connu une décennie de guerre civile qui avait complètement déchiré le pays. Au moins 120 000 personnes avaient été tuées entre 1991 et 2002. Plus de 2,5 millions de déplacés, des milliers d'autres ont vu leurs mains amputées par des rebelles. 20 ans après cette guerre, les séquelles sont encore là. La peur des armes hante les esprits, d'où la crainte de cet habitant de Freetown qui, malgré l'assurance du gouvernement sur la maîtrise de la situation, ne cache pas son inquiétude. On l'écoute.
Quel est son témoignage?
Cet habitant qui gère une boutique à Freetown explique au micro de notre correspondante Fulfulde sur place qu'il a peur. Il indique que le gouvernement a demandé aux citoyens d'évacuer à leurs occupations, mais tout le monde est inquiet parce que ce qui s'est passé dimanche a été violent. Les commerçants, par exemple, ont peur pour leur sécurité, mais aussi pour la sécurité de leurs biens.
Et comment est-ce que la communauté internationale a réagi après ce qu'on peut peut-être appeler une tentative de coup d'État d'ailleurs ?
Cette tentative de coup d'État inquiète la communauté internationale, d'où les condamnations et les messages de soutien au président Julius Maada Bio, réélu pour un second mandat au mois de juin dernier. La représentation locale de l'Union européenne a exprimé son inquiétude et a appelé au respect de l'ordre constitutionnel. Les États-Unis ont aussi condamné ce coup de force en promettant de soutenir ceux qui œuvrent pour une Sierra Leone pacifique et démocratique. En Afrique, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a été la première à réagir. La CEDEAO soutient le gouvernement et appelle à l'arrestation des responsables de ces violences. L'organisation a ensuite dépêché une mission composée, entre autres, du chef d'état-major de la défense et du chef du renseignement militaire nigérien. Le message est clair, marquer un soutien, y compris militaire, au gouvernement sierra-léonais. Les responsables de l'organisation sous-régionale ne veulent pas voir un cinquième deuxième pays de la région dirigé par des militaires.
Et il faut rappeler qu'ils avaient menacé d'intervenir militairement au Niger après le coup d'État contre Mohamed Bazoum.
Oui, Philippe, ces menaces n'ont pas empêché les militaires de se maintenir au pouvoir en se coalisant avec leurs collègues putschistes du Mali et du Burkina Faso contre l'organisation. Le dossier sierra-léonais est donc pris au sérieux. Au sein de la CEDEAO, des concertations sont engagées entre les dirigeants autour de la question. Mercredi dernier, le président de la commission de l'instance, Dr Oumar Touré, s'est entretenu à Abidjan avec le président Alassane Ouattara. Le sujet sera sur la table lors du sommet de l'organisation le 10 décembre prochain. Il faudrait donc, pour finir, rappeler Philippe que depuis la réélection du président Julius Madabio, la situation politique du pays est tendue et à cela s'ajoute un contexte économique difficile.
Tim Bimba de la rédaction Full Foodé en ligne de Dakar au Sénégal. Dubaï accueille la COP28, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. 195 pays participent à cet événement pour coordonner leur politique climatique, trouver des solutions pour freiner la hausse moyenne des températures. Xenia Girol-Nordclé participe à cette conférence internationale. Bien l'Ukraine, avec surtout la préoccupation des conséquences de la guerre sur son environnement. Concrètement, de quoi parle-t-on ?
Alors, il s'agit par exemple des incendies de forêt. Par exemple, dans les parcs naturels ukrainiens, depuis la guerre, le nombre d'incendies a dépassé de plusieurs dizaines de fois les années précédentes. On estime que le feu a détruit des milliers d'hectares de forêt. Les incendies en temps de guerre sont beaucoup plus dangereux que d'habitude. En effet, alors qu'en temps de paix, des mesures étaient prises pour éteindre les incendies, il est désormais impossible de le faire pendant le temps de guerre. Et puis, il y a l'empoisonnement chimique. Les explosifs ont une composition chimique très complexe. Certains d'entre eux sont toxiques et peuvent persister, s'accumuler dans le sol pendant très très longtemps. Et puis il y a le bruit des explosions, une perturbation majeure pour la faune et les oiseaux. Le pire, c'est que tous ces facteurs agissent maintenant en combinaison.
Quelles sont les régions d'Ukraine qui sont les plus polluées par cette guerre ?
Alors notre expert Sofia Chutiak répond à cette question très bien, je vous propose de l'écouter.
Ті збитки, які запоїні, звичайно, це найбільше постраждалими.
Elle dit que, bien entendu, il s'agit des zones les plus touchées par les hostilités. Il s'agit des régions, par exemple, de Donetsk et de Lugansk. Et aussi, compte tenu de la présence de mines du charbon, dont l'eau n'est plus pompée et elle se déverse également dans l'environnement. Les territoires de la région de Tchernigiv, de la région de Kiev, de la région de Kherson et de la région de Zaporizhia, où l'exploitation minière a été massive, où il y a une interdiction directe de visiter les forêts. Et ils sont très endommagés.
Et oui, sur le terrain, la guerre laisse derrière elle des morts, mais aussi des déchets. Hein.
Tout à fait. 12 millions de tonnes. Et c'est le volume estimé des déchets issus de la destruction de l'Ukraine depuis le février 2023, à l'exclusion des territoires temporairement occupés. Et à chaque attaque russe, ce chiffre augmente. Les déchets de démolition contiennent des meubles, des appareils et malheureusement des corps humains et animaux. Et lorsque tout cela est brûlé, on en résulte une masse hétérogène qui crée de nombreux problèmes.
Peut-on déjà dresser un bilan de ces dommages ?
Alors, le bilan, c'est assez difficile de dresser un bilan parce qu'en fait, les dégâts continuent. Il y a le site web du ministère de l'écologie et des ressources naturelles qui indique les dommages causés à l'Ukraine et il s'évère à la hauteur de 15 milliards de dollars. Mais c'est vrai qu'il est très, très probable que ce chiffre soit incomplet. Par exemple, sur 5 000 dauphins qui ont été tués dans la mer Noire et que chaque dauphin vaut 10 000 grivnas, près de 250 euros ce qu'on compte en Ukraine, cela représente une énorme somme d'argent. Et en fait, en outre, nous avons vu ces dauphins, mais si vous prenez la liste complète de toute la biodiversité qui était endommagée, ce montant sera bien plus élevé. En d'autres termes, le montant de dommages devrait inclure aussi le coût de la reconstruction.
La guerre finira bien par se terminer un jour. Que faudra-t-il faire à ce moment-là ?
Alors, en ce moment-là, il faudra faire le procès aux ceux qui ont causé ces dommages. Et c'est vrai que chacun peut participer en Ukraine. Aujourd'hui, à part l'État, à part le gouvernement, chacun, par exemple, peut télécharger une application sur son téléphone et utiliser cette application pour signaler les faits d'un crime contre l'environnement dont une personne est témoin. En d'autres termes, vous prenez des photos, l'application enregistre votre géolocalisation, enregistre vos données et cette information, elle rentre dans une base de données.
Vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire hein, sur cette pollution de la guerre. On peut retrouver cela sur le site en ukrainien de RFI.
Oui, bien sûr.
Avec là aussi des commentaires, puisque vous avez recueilli des experts qui font également des extrapolations sur ce qui pourra se passer le jour où les armes se tairont en Ukraine. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale. Réalisation de Laurent Philippot ce soir, à retrouver là aussi sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. We'll be right back.